Musique sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Vous aimez la littérature et le monde du livre? Ne manquez pas Épilogue pour découvrir chaque semaine des livres d'ici et d'ailleurs. Entrevues avec des écrivains, critiques de romans, de poésie, d'essais, de BD et actualités littéraires sont au menu de cette émission qui propose de tout aux oreilles du lecteur et de la lectrice en vous. Épilogue, le dimanche midi, rediffusion mardi 10h sur les ondes de CKIA FM.
Bonjour, ici Bruno Laberge pour CKIA FM et voici votre bulletin d'information du vendredi 2 février 2024. La ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, Chantal Rouleau, a annoncé hier un soutien de plus de 200 000 $ à deux organismes de la Grande Capitale dans le cadre du plan en matière d'action communautaire 2022-2027. Une somme de 102 000 $ sera remise à 24 heures Chronosport qui aide la jeunesse immigrante ou issue de minorités de la ville de Québec à participer à la vie associative et démocratique dans leur collectivité. De son côté, le Centre d'accès et d'accompagnement au logement subventionné Clé en main recevra 111 000 $. Les organismes communautaires sont des lieux d'apprentissage et de socialisation créés par et pour les Québécoises et Québécois. Il est essentiel de promouvoir la participation pleine et entière de nos concitoyennes et concitoyens à leur vie associative et démocratique, ajoute la ministre Rouleau. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a annoncé hier une hausse de 50 sous du salaire minimum, le faisant passer à 15,75 $ de l'heure. Le collectif pour un Québec sans pauvreté se désole que le gouvernement du Québec laisse tomber encore une fois les travailleurs et les travailleuses au bas de l'échelle. Au Québec, le seuil de la pauvreté est actuellement estimé à 24 200 $ par année pour une personne seule. Virginie Larivière, porte-parole du collectif, souligne que, avec un taux horaire de 15,75 $, une personne seule travaillant au salaire minimum à temps plein comptera sur un revenu disponible à peine supérieur à ce montant. Avec un tel salaire minimum, il ne faudra pas se surprendre de voir continuer d'augmenter le nombre de travailleuses et travailleurs ayant recours aux services des banques alimentaires. Machine de cirque convie la population jusqu'au 24 février 2024 pour une expérience unique. Grand-messe est un défilé spectacle existentiel jubilatoire, un rassemblement chaotique et festif, une célébration où l'on tente de trouver un sens commun à notre existence absurde. Il s'agit d'une expérience immersive, une parade acrobatique haletante, un regard tendre et moqueur sur notre condition humaine, un rituel collectif pour réchauffer le mois de février, indique Julie Lévesque, scénographe de l'événement. C'est donc en cours en ce moment, et ce, jusqu'au 24 février 2024, à l'église Saint-Charles de Limoilou. Pour plus d'informations, on écrit à info@machinedecirque.com. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une agréable journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Thank you. Notre vie s'effrite et disparaît sous les coups des détails. Un homme honnête n'a guère besoin de compter plus avant que ses 10 doigts. Dans les situations extrêmes, il pourra ajouter ses 10 orteils et prendre tout le reste au prix du gros. Simplicité, simplicité, simplicité. Je dis, faites en sorte que vos affaires tiennent en deçà du chiffre 2 ou 3, jamais 100, jamais 1000. Plutôt que de compter jusqu'au million, arrêtez-vous à la demi-douzaine et tenez vos registres sur l'ongle de votre pouce. Dans cette mer hachée de la vie civilisée, il y a tant de nuages, de tempêtes, de bancs de sable et 1000 autres écueils encore à éviter qu'un homme ne peut faire autrement s'il ne veut pas sombrer pour ne jamais atteindre bon port que de naviguer à l'estime. Et quel brillant calculateur cela doit être que l'homme y parvient. Simplifions, simplifions. Plutôt que de 3 repas par jour, s'il faut vraiment manger, n'en prenons qu'un. Plutôt que 100 assiettes, n'en ayons que 5 et réduisons pareillement toutes les autres choses.
Avec mon jardin de haricots, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire du troc et me nourrir. J'ai de quoi pour passer l'hiver. J'ai du riz, de la mélasse, farine de seigle et de maïs. 22 sous c'est pour le porc, 88 pour le froment. J'ai du sucre, du sel, des pommes séchées, un melon d'eau et des patates. En tout j'en ai pour 8 $ et 60 sous. Oh oh oh, simplifier, 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 oh simplifier, oh oui. Il m'arrive souvent d'aller pêcher aux rivières qui veulent bien me donner. Même la marmotte peut s'apprêter pour un souper. Et pour les ergoteurs invétérés, j'avoue qu'un bon dîner chez les amis est quelque chose qu'on ne peut pas refuser. Pays, ce que j'ai trouvé m'a pas surpris. Résignation et calme désespoir. Trop de malheur, trop de couteaux, trop d'objets et de fardeaux. Trop de fiascos, de beaux habits, trop de travaux et de soucis. Trop de détails, de mesquinerie, futilité et vanité. Trop de magouilles, de façades, trop d'argent et trop d'enclos.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, on va avoir une émission plus axée sur la simplicité volontaire. On va parler de détox vestimentaire. Aujourd'hui, en passant, c'est le 2 février qui est la chandeleur. Aussi, on parle aussi du jour de la marmotte, mais d'abord, c'est la chandeleur. Qui est une vieille fête qui remonte à l'Antiquité. Et chandelle, c'était candela, c'était les Romains qui fêtaient ça. C'est la fête de la lumière. Alors, pour nous au Québec, le retour des journées un peu plus longues, on sent que les journées rallongent, que l'hiver bascule là dans un... Disons qu'on peut entrevoir un peu le printemps qui s'en vient. C'est toujours une fête que moi j'aime, la chandeleur. Et le jour de la marmotte, c'est aussi une ancienne pratique qui monte au Moyen Âge. Mais à ce moment-là, je pense que c'était des ours qu'on sortait de leur tanière. Puis là, je sais pas si c'était à Londres, du coup, la même technique qu'aujourd'hui avec les marmottes, mais c'était une façon pour les anciens de savoir si le printemps arrivait, sauf que on disait à ce moment-là qu'il fallait sortir l'animal de son terrier le jour de la chandeleur. Tandis qu'aujourd'hui, on parle du jour de la marmotte, mais on ne réfère pas à la chandeleur. Je pense que c'est important de revenir à l'idée que c'est d'abord une fête qui est liée à la lumière, donc une fête positive, disons. Puis de justement, dans ce même optique-là, pour ceux qui s'intéressent, déjà, on peut s'inscrire pour les conférences de la fête des semences qui sera au début de mars, le 2-3 mars, si je ne me trompe pas. Alors déjà, la fête des semences qui s'en vient dans quelques semaines, puis on va commencer à parler jardinage. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas trop s'exciter. L'hiver n'est pas terminé, mais quand même, on sent qu'on s'en va dans la bonne direction, dans la direction du printemps. Dans les choses que j'ai lues, vues, etc., j'ai été voir le film Rue, qui est basé sur l'histoire de Kim Thuy, sur les Boat People vietnamiens. Et c'est un vraiment beau film que je vous recommande d'aller voir ça. Il est encore en salle là, dernièrement. Et ça nous fait voir aussi notre réalité des immigrants. Là, c'est quelque chose, là, ce qu'ils ont vécu, là, les Boat People, c'est toute une épreuve incroyable. Kim Thuy a tout un vécu, c'est pas pour rien qu'elle est devenue une écrivaine comme ça. Puis aussi, il y a d'autres choses qu'on voit dans le film qui expliquent un peu qu'est-ce qui fait qu'elle est devenue une écrivaine comme ça. Alors, c'est un beau film que je vous recommande, Rue, qui est dans les salles actuellement. Dans mes autres lectures, j'ai dans le Devoir de lundi dernier, le 29 janvier, quelque chose qui revient concernant l'Internet, puis ce qui circule dans l'Internet. Je vous parlais là, du documentaire là, que j'ai vu là, de Umberto Eco, qui lui aussi était très critique par rapport à l'Internet. Il y a un autre article dans cette veine-là qui était dans le Devoir du lundi 29 janvier, page A7, dans la section idées. « Sommes-nous trop informés et pas assez connaissants? » C'est un article de Régent Bergeron, qui est philosophe, qui a publié « Je veux être un esclave » en 2018. Et « L'école amnésique » ou « Les enfants de Rousseau » 2018 aussi. Alors, il nous dit « Quand nous levons le matin, l'une de nos priorités consiste à nous brancher pour nous tenir au courant, pour aller voir ce qui a bien pu se passer au cours de la nuit, alors que, malheur, nous avons osé dormir quelques heures pour recharger nos batteries, celles de nos multiples appareils numériques, il va sans dire. Café à la main, nous saisissons alors notre téléphone ou notre tablette afin de lire nos journaux préférés, de consulter différents réseaux sociaux, de surfer sur le web, sans oublier de regarder d'un œil oblique les nouvelles en continu qui défilent sur les écrans de nos téléviseurs. Mais tout ce temps passé à nous informer fait-il de nous de meilleurs citoyens, des êtres plus éclairés, plus connaissants ou même plus sages? Pas nécessairement. Une information n'est pas une connaissance. Il y a une grande différence entre le fait de s'amplifier de données brutes ou d'une infinité d'informations préformatées, disparates ou fragmentaires, recueillies à gauche et à droite, et souvent sur des sites peu crédibles, et celui de posséder un véritable savoir, constitué de connaissances liées entre elles d'une manière organique, rigoureuse et cohérente. Alors, c'est ça, là, c'est que on a l'impression d'être bien informé. On a beaucoup d'informations, mais ça ne veut pas dire qu'on est connaissant. Il dit un peu plus loin, il dit « Aujourd'hui, il est malgré tout de bon ton de dire que nous vivons dans une société du savoir, que celui-ci est à la portée de tous grâce à Internet et aux nuages numériques. Toutefois, il faut être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas constater que la vérité et même les faits n'ont jamais été aussi malmenés, alors que le mensonge, la désinformation, les fake news et les théories du complot nécessitent de leur côté à se réussissent de leur côté à se répandre à une vitesse qui frôle celle de la lumière. Les sceptiques, face à ce que j'avance, n'ont qu'à observer pour s'en convaincre cette expérience qui se joue en temps réel dans le laboratoire, pour ne pas dire le cirque, de la politique américaine. Alors, l'article termine comme ça, comme l'explique Bing Chul Han, c'est un chercheur chinois, dans son court essai « Coup de poing » intitulé « Infocratie numérique et crise de la démocratie, la vérité » a toujours eu, entre autres, fonction ou effet de créer du commun et de maintenir un minimum de cohésion sociale. Lorsque cette vérité fout le camp, que la réalité des faits est même contestée, c'est alors que la démocratie qui finit, c'est alors que l'idée de la démocratie qui finit par devenir peu à peu impraticable. Alors, c'était dans Le Devoir de lundi dernier, « Sommes-nous trop informés et pas assez connaissants? » Article de Régent Bergeron. Pour terminer, je reviens avec le dernier Philosophie Magazine, qui avait beaucoup de choses intéressantes dedans, dont un petit dossier sur Marc Aurèle, et, qui est un de nos philosophes préférés en toute simplicité, stoïcien, et qui... Et pour lui, la philosophie, c'était un mode de vie. D'ailleurs, Marc Aurèle n'était pas un professeur de philosophie ou un enseignant. Ses écrits, qui s'appellent « Les pensées à moi-même », c'était un carnet qu'il écrivait pour lui-même, pour un peu là, faire un suivi sur ses études. Lui, il a étudié avec les philosophes. Son père l'a envoyé étudier avec les philosophes, puis il a vraiment... pris ça au sérieux, ses études de philosophie. Alors, on dit, contrairement à ce que l'on déduit parfois du stoïcisme, la réponse ne consiste pas à se retirer du monde. C'est tout bonnement impossible, surtout dans un schéma stoïcien. Alors, Marc Aurèle, il n'était pas retiré du monde, il était vraiment dans le monde. Toutes les pensées de Marc Aurèle approfondissent cette difficulté de la préservation de soi au milieu du tumulte des autres, malgré, mais aussi avec ce tumulte. Marc Aurèle est l'un des représentants de ce qu'on appelle le stoïcisme impérial aux côtés de Sénèque, notamment. Entre la création par Zénon de Christian en 300 avant Jésus-Christ, par l'école du Pertique, soit l'école qui a vu naître le stoïcisme, et le règne de Marc Aurèle entre 161 et 180, quatre siècles s'écoulent. Lorsque l'empereur romain noircit des carnets pendant ses campagnes militaires, c'est donc dans la lignée d'une longue tradition de philosophie, de philosophes et de disciples qu'il ajoute sa pierre à l'édifice du stoïcisme. Contrairement au fondateur, on ne trouve pas chez lui d'écrits techniques sur l'architecture du cosmos, la place de l'être humain au sein de la nature ou l'existence des dieux. Tout comme Sénèque, le conseiller de Néron, lui, Sénèque, il vécu en l'an 4, à 4 à 65, un peu avant Marc Aurèle. Le conseiller de Néron, ou Épictète, qui lui a vécu de 50 à 125, l'ancien esclave, Marc Aurèle dispense plutôt des conseils, des recommandations qui ont une vocation existentielle, au fond plus consolatoire que didactique. La répétition de plusieurs pensées reformulées de différentes manières selon les livres en témoigne. Ce sont des exercices spirituels, ça, on en a beaucoup parlé, comme les appelle Pierre Hadot, l'un des principaux commentateurs, et non pas des démonstrations. Ces exercices consistent à se remémorer certains grands principes dont la difficulté nécessite répétition, réécriture, comme une forme de rumination. Les pensées, pour moi-même, ne sont rien d'autre que cela. Alors, c'est un beau petit reportage ou spécial là, sur Marc Aurèle dans le Philosophie Magazine. On a aussi des lectures qu'on vous recommande à lire. Évidemment, Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, suivi du manuel d'Épictète. On a Introduction aux pensées de Marc Aurèle, La citadelle intérieure, par Pierre Hadot. Puis il y a aussi le film Gladiateur. Si vous voyez le film Gladiateur, on a quelques scènes où on voit Marc Aurèle dans ce film-là. Alors voilà, c'était dans le dernier Philosophie Magazine. Alors on prend une petite pause musicale, puis au retour, je vais vous parler de détox vestimentaire.
Et la musique, la la la, la la la, la la la, cette musique, la la la, la la la, la 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 la. Les tziganes, que de larmes ils ont versé, que de courage, souvent persécutés. Les tziganes n'ont pas toujours un toit, ils n'ont que pour chaleur un petit feu de bois. Et la musique, da da da, da da da, da 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 da. Et la musique, da da da, da da da. Dans la plaine verte, la ville déserte avance les caravanes. Sous un soleil de plomb, des nuages vagabonds, la silhouette des tziganes. Naï, 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 naï. Aux belles voix de l'exil, d'un peuple qui ne tient que par un fil. J'aime vos rythmes, vos cris et vos mots. Vous m'en voudrez peut-être que je vous chante faux. cette musique, da 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 da, cette musique, da 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 da, de Belgrade à Budapest, de Grozny à Bucarest, de Berlin à Moscou, de Varsovie à Corfou, de l'Arménie à la Bosnie, salve de canon et survie.
Alors, c'était Jean Marcorel, son album Une petite pause, c'était la pièce La complainte tzigane. En début d'émission, comme d'habitude, de Richard Séguin sur les pas de taureau, c'était simplifié. Puis au tout début d'émission, comme à l'habitude aussi, je vous ai lu un extrait, un bel extrait de Walden, des plus célèbres extraits de Walden. Je pense que je vais le relire encore la semaine prochaine. L'extrait dont le plus connu de Walden, d'Henri David Thoreau. Avant de commencer avec vous parler là, de la détox vestimentaire, je veux juste terminer là, avec Marcorel, le petit extrait de la revue Philosophie Magazine, le dernier numéro qui est en kiosque, « Y a-t-il des bons et des méchants? » Le petit article sur Marcorel et il se termine avec un extrait des pensées de Marcorel. Puis j'aimerais ça vous le lire parce que c'est un bel extrait aussi de Marcorel. Alors, ça s'intitule « Vivre sa vie dignement, comment affronter la précarité de l'existence, la fuite du temps et de la mémoire, mais aussi notre petitesse, comment être utile à la société ». Réponse avec cet extrait commenté des pensées pour moi-même. Alors, on se cherche des retraites à la campagne, sur les plages, dans les montagnes, et toi-même, tu as coutume de désirer ardemment ces lieux d'isolement. Mais tout cela est de la plus vulgaire opinion, puisque tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle part, en effet, l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme, surtout s'il possède en son fort intérieur ces notions sur lesquelles il suffit de se pencher pour acquérir aussitôt une quiétude absolue. Et par quiétude, je n'entends rien d'autre qu'un ordre parfait. Mais peut-être as-tu de l'amertume contre le lot que l'ensemble t'assigne. Rappelle-toi le dilemme où une providence ou des atomes et par quel argument il a été prouvé que l'univers est comme une cité. Les choses du corps ont-elles alors fait fait mémis sur toi. Considère que la pensée ne se mêle point aux agitations douces ou violentes du souffle vital. Une fois qu'elle s'est retrouvée elle-même et qu'elle a reconnu sa propre force, et enfin, rappelle-toi ce que tu as entendu et admis sur la douleur et sur le plaisir. Mais peut-être sera-ce la gloriole qui te sollicitera. Jette les yeux sur le trépont oubli dans lequel tombent toutes les choses, sur le gouffre du temps et qui des deux côtés s'ouvre à l'infini, sur la vanité du retentissement, la versalité et l'irréflexion de ceux qui paraissent te bénir. Alors, c'est juste que je voulais vous lire ce petit extrait-là sur Marc Aurèle. C'est « Les pensées pour moi-même » de Marc Aurèle. Bon, alors, c'est ça, c'est un livre de Valérie Simard aux éditions La Presse, « Une année de détox vestimentaire, réflexion sur le prêt-à-jeter ». Alors, elle nous dit, voici, au tout début, elle nous dit « N'achetez aucun vêtement neuf pendant une année est le défi que je me suis lancé après avoir pris conscience de la discordance qui persistait entre ma garde-robe et mes valeurs sociales et environnementales. Au fil des ans, j'avais adopté la stratégie des petits pas, laissant d'abord certaines marques de vêtements, après avoir regardé avec horreur les images de l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013. En passant, le Rana Plaza, c'est comme une usine de vêtements au Bangladesh, où on fabrique entre autres les vêtements Joe Fresh. Et hier, en enquête, on avait un reportage justement sur toute cette affaire-là, puis des survivants de cette... c'était un incendie en fin de compte, puis l'édifice s'est effondré sur les travailleurs. Et il y a des travailleurs qui ont perdu leurs membres ou des membres ou qui sont décédés. Alors, c'est en enquête, si vous voulez voir ça, c'est disponible sur le site de Radio-Canada. Alors, après avoir regardé avec horreur les images de l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013, cette catastrophe qui a causé la mort de plus de 1100 personnes est d'ailleurs devenue le symbole des abus de la fast fashion, une industrie vouée à produire toujours plus, plus vite et à faible coût. Puis, je me suis laissé séduire par le marketing vert prônant les vertus du coton biologique et du polyester recyclé. Je me suis aussi mise à privilégier les marques locales, convaincue de l'importance d'encourager des entreprises d'ici. Malgré tout, j'achetais encore trop de vêtements, une vingtaine par année, pour ma garde-robe personnelle. Je craquais facilement pour les dernières tendances, pour des pièces aperçues sur les réseaux sociaux, pour des tenues qui ne correspondaient pas à mon style et qui prendraient la poussière avant que je ne me décide à les donner à un organisme de bienfaisance. Je consommais au-delà de mes besoins, parfois dans l'insouciance et l'aveuglement, et bien souvent impulsivement. À la question « En as-tu vraiment besoin? », j'aurais pu répondre « telle une Rebecca Bloomwood dans le film Confession d'une accro du shopping, que ces gants en cachemire me sont nécessaires parce que c'est l'hiver et que j'ai des mains. Au printemps 2022, alors que la pandémie m'avait forcé à prendre du recul sur ma consommation vestimentaire, je me suis rappelé ce texte paru dans le New York Times qui avait frappé mon imaginaire 5 ans plus tôt. L'autrice américaine Anne Patchett y racontait comment son expérience d'une année sans magasiner avait été bénéfique, transformant son apport aux biens et à l'argent, tout en lui faisant économiser énormément de temps. Fini le magasinage en ligne dans les moments d'ennui et les interminables séances d'essayage en boutique. Si à l'époque, j'avais lu ce texte avec amusement au sortir de la pandémie, l'idée me paraissait réellement séduisante. Mais serais-je capable de ne rien acheter pendant un an? Côté vestimentaire, je me laisse rapidement à mes possessions. je me lasse rapidement de mes possessions. À vrai dire, la majorité du contenu de ma garde-robe m'apporte très peu de satisfaction. Cette excitation ressentie la première fois que je porte une pièce s'estompe, celle d'après pour s'évanouir complètement au bout de quelques sorties. Ma penderie est bien garnie. Pourtant, je compte sur les doigts d'une main les morceaux que j'affectionne vraiment, ceux qui provoquent en moi une étincelle de joie. Et je ne suis pas la seule. Alors, c'est ça. Elle dit un peu plus loin aussi, là, elle nous donne des tableaux. L'industrie de la mode en chiffres. Alors, on dit, selon les estimations, l'industrie de la mode émet entre 2 et 8 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. La production textile, y compris la culture du coton, utilise environ 93 milliards de cubes d'eau par an, contribuant à des problèmes d'approvisionnement en eau dans certaines régions. Cette quantité d'eau est suffisante pour répondre aux besoins de 5 millions de personnes. 60 tonnes de polyester ont été produites en 2021. Pour chaque kilogramme de polyester, 1,5 kg de pétrole est nécessaire. 76 % du coton planté dans le monde en 2018 était génétiquement modifié. Par ailleurs, la culture du coton nécessite une grande quantité de pesticides. 36 % du rejet global des microplastiques. Les vêtements synthétiques participent à la hauteur d'environ 35 % au rejet global de microplastiques primaires dans les océans de la planète, représentant ainsi la principale source de microplastiques. Alors, elle nous enjoint finalement de réduire notre consommation, aussi d'améliorer notre consommation. C'est possible de... Bien, entre autres, si vous regardez le documentaire là, sur l'usine au Bangladesh, où les travailleurs sont sous-payés dans des conditions qui n'ont pas de sens, ben là, il faut essayer d'acheter des vêtements quand on en achète, des vêtements qui sont reconnus comme équitables ou procèdent d'un commerce équitable, correct, envers les travailleurs. Aussi, c'est possible, je recherche ça en fibres biologiques. Et on en voit de plus en plus. Ça va aussi probablement nous obliger à payer un peu plus cher pour nos vêtements parce que des vêtements équitables biologiques vont être plus chers. Mais quand on sait de l'autre côté l'impact que ces vêtements-là sur les travailleurs dans le monde, puis aussi bon la culture chimique est très malsaine. Donc, on peut améliorer notre consommation comme ça. Alors, je poursuis un peu avec Madame Valérie Simard, une année de détox vestimentaire. Ma réflexion a été alimentée par le livre « Faire plus avec moins » de la blogueuse québécoise Vicky Payeur, dont la parution a coïncidé avec les débuts de mon défi. Dans cet essai, elle expose comment s'éloigner de la surconsommation pour vivre dans la frugalité apporte une forme d'indépendance. Lorsqu'on arrête de tout dépenser pour des biens matériels, on commence à accumuler des heures de liberté, constate celle qui a pu, en changeant son mode de vie, s'affranchir de dettes totalisant 16 000 $ en seulement 2 ans. Après s'être constitué un fonds d'urgence, elle a quitté son emploi en 2019, s'est établie à son compte comme blogueuse, conférencière et gestionnaire de réseaux sociaux et a pu acheter un immeuble locatif en Mauricie avec son conjoint. Pour d'autres, cette plus grande liberté financière peut se traduire par la possibilité de réduire leur semaine de travail, prendre un congé sans solde ou accéder à une retraite hâtive. Limiter ou cesser temporairement ses achats vestimentaires peut être un premier pas à condition de ne pas déplacer son comportement de consommation vers d'autres sphères. Cela dit, bien souvent, c'est notre consommation globale qui diminue à long terme, puisqu'une telle démarche entraîne une réflexion plus large sur nos besoins en général et nous amène à remettre en question l'acquisition de plusieurs catégories de biens, pas seulement les vêtements. Ben, ça, c'est de ça qu'on parle depuis le début à l'émission, en toute simplicité. Un peu plus loin, elle parle de l'essai de Jacques Sénécal qui a été publié là, dans Le Devoir au mois de mai de 2022. C'était Épicure, comment Épicure peut sauver le monde. Je vais vous donner la référence après pour ceux qui s'intéressent. Alors, dans un texte publié dans le quotidien Le Devoir, l'essayiste et professeur de philosophie à la retraite, Jacques Sénécal, note que plusieurs anthropologues, dont Claude Lévi-Strauss, Marshall Salins et Leslie White, ont démontré que les sociétés à économie de subsistance parviennent à se procurer le minimum nécessaire et n'éprouvent pas de besoins infinis. L'accumulation ne fait pas partie de leur mode de vie. Pour en arriver à transformer le nôtre dans le but d'éviter la catastrophe écologique ou du moins l'amenuiser, Jacques Sénécal propose de s'inspirer de la pensée du philosophe grec Épicure, notamment de l'arithmétique des besoins. Ce dernier a dit « Parmi les désirs, les uns sont naturels et nécessaires, les autres sont les autres naturels et non nécessaires. » et les autres ni naturels ni nécessaires. Mais l'effet d'opinion creuse. Le philosophe pensait qu'en son temps, l'état de civilisation était suffisamment avancé pour que l'on ait tout ce qui est nécessaire pour être heureux. C'était un siècle avant Jésus-Christ. Les besoins non naturels et non nécessaires, comme le luxe, la richesse et la renommée, sont ceux dont les satisfactions sont illimitées, explique Jacques Sénécal. Ce sont des besoins créés par l'opinion publique, par les pressions économiques et sociales, par les conformismes, par la propagande publicitaire omniprésente et de plus en plus ciblée, toujours dans le but de faire de chacun de nous des consommateurs de futilité. Mais ce sont ces satisfactions, toujours inassouvies, qui compliquent la vie, génèrent des inégalités, créent de la misère, et agresse la nature, bien que cette observation n'incrimine pas particulièrement l'industrie de la mode, on ne peut que constater qu'elle lui sied comme un gant. Alors, on va prendre une petite pause musicale, puis on va poursuivre avec le livre de Valérie Simard, « La détox vestimentaire ».
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Dead of night. Take these
these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
Alors, c'était la chanson Blackbird des Beatles. En fin de compte, Blackbird, c'est une métaphore. En fait, le vrai titre de la chanson devrait être plutôt Black Girl. Cette chanson-là avait été écrite par Paul McCartney dans les années 60, dans tout le mouvement là, aux États-Unis des droits civiques américains, puis dans la foulée aussi de l'assassinat de Martin Luther King. Voilà. Pour aussi, je vous ai lu un petit extrait là, d'un texte de Jacques Sénécal. Et pour ceux qui s'intéressent, c'était dans Le Devoir du 21 mai 2022. Le titre de l'article, c'est « L'épicurisme pour éviter la catastrophe écologique ». Alors, je salue Jacques en passant, qui est probablement à l'écoute et qui va être avec nous, qui va nous venir, notre collaborateur régulier, qui devrait être avec nous là vers la mi-mars, fin mars, pour une autre chronique, comme il fait à chaque mois. Alors, je poursuis avec la détox vestimentaire. On parle ici de la publicité. C'est un beau petit livre sur la simplicité volontaire, ce livre-là, le détox vestimentaire. Et elle touche beaucoup d'aspects de la simplicité volontaire, dont la critique de la publicité. Alors, elle dit « Les possessions nous font-elles avancer sur le chemin du bonheur, comme le prétend Edward Bernays? » Edward Bernays, c'est lui qui a inventé un peu la publicité. Alors, elle poursuit « Ce n'est pas la vie du psychologue américain Tim Kasser, professeur émérite au Knox College en Illinois. Dans « The High Price of Materialism », ça c'est un classique de la simplicité volontaire, je ne pense pas qu'il ait été traduit, un livre, Tim Kasser, c'est K-A-S-S-E-R. Il explique comment notre culture contemporaine de consommation et de matérialisme affecte notre bonheur quotidien et notre santé psychologique. Il montre que les personnes dont les valeurs sont centrées sur l'accumulation de richesses et ou de biens matériels sont plus exposées au mal-être, notamment l'anxiété, la dépression et une faible estime de soi. Elles ont plus de problèmes financiers et démontrent davantage de comportements antisociaux. Par exemple, elles sont moins enclines à partager. Or, des valeurs matérialistes nuisent à l'esprit de communauté qui est, rappelons-nous, un besoin psychologique fondamental. Tim Kasser identifie d'ailleurs deux principaux déclencheurs au comportement matérialiste. Le premier est le modèle social qui fait en sorte que nous agissons sous l'influence de nos collègues, de nos amis ou d'une influenceuse sur TikTok. On se compare, on consomme. La deuxième est l'insécurité, sachant que l'acquisition de biens peut entraîner un sentiment de protection. Une personne qui vit en situation de précarité peut ainsi être amenée à s'entourer d'objets pour renforcer son sentiment de sécurité, l'abondance étant plus rassurante que le dépouillement. Alors, on revient un peu à Marc Aurel, l'extrait que je vous lisais tantôt, qui parlait, lui, que la sécurité et puis l'assurance, on doit la trouver en soi en développant une citadelle intérieure. Et malheureusement, il développe pas beaucoup. Il dit, Marc Aurel, il dit, en utilisant les techniques nécessaires. Et ça, c'est en lisant probablement d'autres philosophes ou en lisant Pierre Hadot qui en parle aussi des exercices spirituels que les philosophes pratiquaient pour justement se sentir en sécurité. Puis ben là, je ne sais pas si à l'époque on avait de la surconsommation, mais c'est une façon qu'on compense notre sentiment d'insécurité, c'est beaucoup par la consommation. Alors, je vais poursuivre. Alors, revenons au modèle social. Edward Bernays, alors c'est lui qui a inventé la publicité, avait compris le pouvoir d'influence des célébrités en les mettant en vedette dans ses publicités. Avant les réseaux sociaux, il y avait la télévision, les tapis rouges et les magazines à potins. Saviez-vous que dans le sac Dior, lancé en 1995 et offert à Lady Di par Bernadette Chirac, est devenu le meilleur vendeur de la marque après avoir été photographié par les paparazzi du monde entier? Avec les réseaux sociaux, ce pouvoir d'influence est décuplé par l'ampleur de l'audience atteinte et par la multiplication des propositions de bonheur qui sont faites aux utilisateurs. La nature même des célébrités a ainsi été transformée par ces nouveaux outils de communication. J'ai poursuivi un petit peu plus loin. Alors, on parle aussi d'un peu plus loin, bien, toujours Mme Valérie Simard, dans son livre « La détox vestimentaire », elle parle d'un article dans le « Protégez-vous », l'article accompagnant les résultats du sondage publié dans le magazine « Protégez-vous » met en lumière le piège de la surconsommation que l'économie de l'usager. Alors, elle dit aussi « Il faut faire attention ». On peut, c'est bien de changer nos pratiques, d'aller dans les friperies, d'acheter usagé, mais il peut y avoir un piège aussi qu'on peut même surconsommer dans l'usager. Alors, ça aussi, il faut être prudent. Alors, si la logique derrière la relation aux secondes mains est toujours de se départir d'un bien pour pouvoir arracher un neuf, alors il y a un problème, prévient Sophie Bernard, économiste experte en économie circulaire et professeure titulaire au département de mathématiques et de génie industriel de Polytechnique à Montréal. Il ne faut pas oublier que le bien le moins polluant, c'est celui que l'on ne consomme pas. La réduction à la source est la stratégie qui a toujours le plus grand impact. Alors, évidemment, je parlais de consommation plus saine, plus respectueuse, plus écologique, d'acheter usagé, mais on en revient quand même que idéalement il faut réduire notre consommation. Je vais prendre une petite pause, une dernière petite pause musicale, puis après ça, on va conclure avec quelques extraits encore de la détox vestimentaire.
Comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis, je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement des étoiles filantes.
Alors, c'était les étoiles filantes des Cowboys fringants. Alors, pour terminer, un petit survol rapide, là, elle dit prendre la mesure concrète de l'impact de la production de vêtements peut être un moteur d'action en nous poussant à vouloir faire des choix plus responsables. Malgré notre bonne volonté, ce n'est pas simple en réalité. Déjà à l'achat, en matière d'information, un mur haut et opaque s'érige entre le consommateur et de nombreuses marques de mode. Les étiquettes des vêtements nous renseignent généralement très peu sur l'empreinte environnementale du produit et sur les conditions de travail dans lesquelles il a été confectionné. Pour connaître la provenance de la fibre et le lieu des différentes étapes de production, il faut aller plus loin et questionner les marques. Là, elle nous donne un petit tableau ici avec un lexique, le lexique de la mode responsable. Alors, fibre biologique, cette fibre est issue de l'agriculture biologique cultivée sans pesticides, insecticides, engrais chimiques, ni organismes génétiquement modifiés. Alors, la fibre recyclée aussi, fibre naturelle ou synthétique, est dite recyclée lorsqu'elle est fabriquée à partir d'une matière déjà existante qui a été transformée. Matière naturelle trouve son origine dans la nature, végétaux, champignons ou animaux, par opposition à une matière synthétique. On parle de mode éco-responsable et qualifier d'éco-responsable une mode produite à partir de procédés respectueux de l'environnement, matière biologique naturelle recyclée ou surcyclée, sans produits chimiques, dans le respect des travailleurs et travailleuses, salaire, horaire décent, conditions de travail sécuritaires, aucun travail forcé ni travail d'enfant. Après le mode vegan, un produit est vegan lorsqu'il n'est pas d'origine animale. Ensuite, on parle de la slow fashion. En opposition à la fast fashion, la slow fashion désigne une production raisonnée de vêtements durables et de bonne qualité avec un renouvellement de collections moins fréquent. puis elle parle de surcyclage, appelé ici upcycling. Le surcyclage est une méthode de revalorisation par laquelle des matières déjà existantes sont réutilisées sans être transformées pour la fabrication d'un produit à valeur ajoutée. Alors, c'était tiré tout ça du livre de Valérie Simard, Une année de détox vestimentaire aux éditions de la presse. Alors, c'est terminé pour cette semaine. Alors, bonne semaine à tous, bonne chandeleur et à la semaine prochaine.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Mondes musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Mondes musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes?